La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette émission, la prédication protestante. Je suis le pasteur Laurent Lenoir, responsable de l'église Espoir et Vie de la ville de Groyer dans le Tarn. Je vous invite à ouvrir votre Bible, si vous le pouvez, ou à écouter le texte suivant qui se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 7 et verset 45. Ainsi, est-il écrit, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, pourquoi n'avez-vous pas amené Jésus ? Et les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Je voudrais m'arrêter sur ce verset 46, car finalement, c'est là le point clé de ce partage biblique de l'Évangile avec vous aujourd'hui. Effectivement, dans ce chapitre 7 de l'Évangile selon Jean, il y a cette déclaration stupéfiante des huissiers qui ont été envoyés par les principaux sacrificateurs, les pharisiens, pour arrêter Jésus. Ils reviennent, nous l'avons lu, bredouilles. Bien sûr, les religieux donc sont très en colère. Ça ne leur plaît pas que Jésus n'ait pas été arrêté. Et ces huissiers, leur seule excuse est un constat d'impuissance admirative. Ils sont impuissants parce qu'ils n'ont pas pu le ramener. Mais ils n'ont pas pu le ramener parce qu'ils ont été admiratifs. Ils ont entendu Jésus parler. Jamais homme, diront-ils, n'a parlé comme cet homme. Et voyez-vous, ce n'est pas seulement l'éloquence de Jésus qui frappe. C'est surtout, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est l'autorité intrinsèque de sa parole. Finalement, quand les huissiers disent cela aux principaux sacrificateurs et aux pharisiens, ils sont en train de leur dire, écoutez, vous, en tant que chef religieux, expliquant la Torah, expliquant la loi de Moïse, enseignant, répondant aux questions d'ordre spirituel, moral, juridique, finalement, vous êtes très attachés à un système traditionnel. Tandis que quand lui, nous l'avons écouté, Jésus, eh bien, lui, il va parler en son propre nom. Sa parole n'est pas une simple information. Elle est une parole créatrice. Tout au long de l'Écriture, dans l'Ancien, le Nouveau Testament, nous nous rendons compte que la parole de Dieu, la parole de Jésus, est une parole créatrice. Nous remarquons qu'ensuite, lors de l'établissement de l'Église du premier siècle, avec les apôtres vont également annoncer la parole de Dieu, la parole de l'Évangile, la parole de Christ, les enseignements de Christ, les enseignements qui concernent eh bien, l'explication du royaume des cieux et surtout la possibilité pour l'homme d'hier et d'aujourd'hui, de connaître le salut par grâce, le pardon de ses péchés qui se trouve en Jésus-Christ seulement. C'est une parole créatrice. C'est une parole, finalement, qui est capable de restaurer la création. Nous remarquons au travers, et c'est ce que nous allons voir, qu'au travers des évangiles, que la parole de Jésus Elle possède, je veux le dire ainsi, une juridiction totale sur tous les domaines de l'existence, une autorité sur tous les domaines de l'existence. Et là, ça va vous encourager. Là, ça va vous parler personnellement. Ça va vous montrer que la vie chrétienne, la marche avec Dieu, cette nouveauté de vie qui est en Christ, quand on le reçoit comme Sauveur et Seigneur personnel, eh bien, c'est une assurance que dans tous les domaines de l'existence, il sera là pour nous secourir. Premier exemple, je prends un exemple sur ce qui concerne la maladie et l'exclusion. À ce sujet, je m'arrête sur la situation d'un lépreux. Je pense que c'est un très bon exemple à souligner par rapport à la maladie et l'exclusion. Et dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8, nous nous rendons compte qu'il y a là un lépreux qui va s'approcher de Jésus, qui va se prosterner devant Jésus et qui va crier son désespoir à celui qui est le Verbe incarné, parole créatrice, parole qui restaure. Vous savez comme moi que dans l'Antiquité, le lépreux n'était pas seulement malade physiquement, il était mort socialement, spirituellement, il était mort donc au niveau même de sa propre famille, il était banni de la communauté. Et finalement, l'argument de la parole de Dieu, c'est que quand le lépreux lui dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur », Jésus va lui répondre « Je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. » Et le texte nous dit qu'aussitôt, pas trois jours après, aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Jésus va briser par sa parole la barrière de la maladie, la barrière de l'isolement. Et la profondeur de l'Écriture ici, c'est que Jésus, mes amis, ne se contente pas de guérir un corps. Il réintègre l'homme dans la réalité de son humanité sur le plan social, communautaire, sur le plan familial, sur le plan spirituel. Il va pouvoir réintégrer son lieu de culte. Sa parole, la parole de Jésus, a le pouvoir de purifier ce que la loi déclarait impur. Là où l'homme, voyez-vous, voit une cause perdue, la parole de Jésus, encore aujourd'hui, hier, aujourd'hui, au XXIe siècle, voit une création, une humanité à restaurer, à relever, à pardonner ses péchés, à reconnecter avec Dieu. Elle redonne une place à celui que la société a rejeté. Et donc ce lépreux qu'a imploré la pitié, la compassion de Jésus, Jésus lui dit « Je le veux vraiment, sois pur. » Et ici, pardonnez-moi, mais j'insiste, Jésus ne formule pas un souhait. Il ne dit pas « je souhaite ». Non, ça ne veut rien dire. Non, il exerce sa volonté souveraine sur la maladie, sur l'exclusion. La maladie recule devant le « je veux » du Créateur, qui est notre Dieu, qui est Jésus-Christ. Le deuxième exemple se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 4. Cette fois-ci, c'est la parole puissante de Jésus, de toute autorité sur les lois de la nature. Et dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, en effet, il est question donc des disciples. Jésus va leur dire, écoutez, passons à l'autre bord. Et donc, ils vont rentrer dans cette barque. Ils vont donc passer à l'autre bord. Mais avant d'y arriver à l'autre bord, à un moment donné, il y a une tempête très forte, très puissante qui se lève et qui va menacer les disciples de mort. Ils voient la mort en face. Ils savent que là, à tout moment, ils peuvent donc mourir. Parce que l'Écriture nous dit qu'il s'élevait un grand tourbillon. Les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Mais béni soit Dieu, parce qu'ils ne sont pas tout seuls. Ils sont avec celui qui a toute autorité par sa parole. Voyez-vous, cette tempête menaçante sur le lac représente le chaos originel de ce qui échappe totalement au contrôle de l'homme. Et ici, la parole de Dieu nous met face aux éléments déchaînés. Jésus va effectivement intervenir, mais il ne va pas prier pour que le vent se calme. Non, 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 non. Il va menacer le vent et il va dire à la mer, « Silence, tais-toi. » C'est-à-dire, il l'ordonne à la mer de se taire. Il menace le vent. La profondeur ici, spirituelle, biblique, théologique, c'est que nous avons la réalité de la signature du Créateur. Comme au premier jour de la Genèse, sa parole, donc, va ordonner que le chaos ne soit plus. Et cela nous enseigne que rien dans l'univers matériel, ni les crises économiques, ni les catastrophes, et aujourd'hui, au moment où je vous parle, donc en ce dimanche 29 mars, que se passe-t-il? Il y a des guerres, Moyen-Orient, Iran, Ukraine et tellement d'autres sur la surface de la Terre, que de crises économiques, morales, relationnelles, catastrophiques, gouvernementales, et j'en passe. Mais tout cela, mes chers amis, tout cela, eh bien, n'est absolument pas hors de portée de son autorité. La création, elle reconnaît, elle obéit à la voix de son Créateur, de son Maître, Jésus-Christ. Et face à la tempête menaçante, donc oui, il a ordonné au vent de se taire. Silence, tais-toi. La création reconnaît la voix de celui qui a dit au commencement que le chaos cesse en disant que la lumière soit. Et la lumière fut. Un troisième exemple. Cette fois-ci, l'autorité de Jésus en rapport avec la distance et le temps. Ici, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, que le texte nous parle d'un épisode intéressant. Au chapitre 4, à partir du verset 43, c'est donc l'épisode de l'officier de l'armée romaine. L'officier de l'armée romaine, qui finalement est l'un des plus fascinants, car Jésus, dans le texte, on le voit ici, il ne se déplace pas. Alors, la particularité biblique, c'est que à l'officier de l'armée romaine qui supplie Jésus de venir pour guérir son fils, son enfant, qui est à la mort, Jésus répond simplement, va, ton fils vit. Waouh, c'est formidable. Et quand on lit le texte, eh bien, l'Écriture nous dit que c'est à l'heure même où Jésus a prononcé cette parole, ton fils vit, que l'enfant de cet officier de l'armée romaine a été guéri à l'heure même de la prononciation de cette parole de guérison, de délivrance. Amen. Mais quelle profondeur spirituelle! Cela démontre que la parole de Jésus, elle est omniprésente. Elle n'est pas coincée dans un coin, dans un lieu, à un endroit particulier. Preuve en est, je ne sais pas, chers auditeurs, auditrices, où vous êtes en ce moment en train d'écouter ce message. Sur cette émission, la prédication protestante, je ne sais pas où vous êtes. Peut-être dans votre voiture, peut-être dans votre salon, peut-être dans votre chambre, peut-être c'est un routier dans sa cabine de camion, je ne sais. Mais j'insiste, la parole de Jésus, elle est omniprésente. Elle n'est pas limitée par la vitesse de déplacement ou par la distance géographique au point de devoir calculer, à savoir si la parole qui est prononcée maintenant sur Radio Présence va pouvoir atteindre au moment voulu, eh bien, ma maison, mon cœur, mon âme, ma vie. Non, la parole de Dieu, la parole de Jésus, comme Dieu l'est, comme Christ l'est, comme le Saint-Esprit l'est, elle est omniprésente pour nous aujourd'hui. Cela signifie que sa parole, qui a été prononcée dans l'éternité, ou qui est prononcée encore par sa parole vivante, les Écritures saintes, peuvent, et aujourd'hui, maintenant, sans délai, là où vous êtes, c'est une question de foi. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Si vous mettez votre foi en Jésus, si vous lui demandez de vous pardonner de vos péchés, de faire de vous une créature libérée de tout péché, de tout esclavage, il va le faire. Le temps et l'espace sont des serviteurs de sa propre volonté. Je prendrai un autre exemple. La parole, l'autorité de la parole de Jésus sur les chaînes de l'invisible. Je prends pour exemple l'évangile de Luc au chapitre 13. Il est question de ce cas d'une femme qui est courbée, c'est-à-dire elle regarde le sol continuellement, elle ne peut pas se redresser. Et l'Écriture nous dit que ça fait 18 ans qu'elle est comme cela. Et le cas de cette femme qui est ainsi infirme, donc courbée depuis 18 ans, illustre une oppression qui n'est pas seulement physique, mais qui est liée à une infirmité spirituelle. L'argument de la parole de Dieu, c'est que nous remarquons que Jésus ne propose pas de thérapie, hein. Il proclame une libération. Il va dire à cette femme, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et Jésus lui imposa les mains. Et à l'instant même, elle s'est redressée et elle a glorifié Dieu. Elle s'est redressée instantanément. Il existe des poids au milieu de l'humanité. Peut-être dans votre propre vie personnelle, il existe des poids invisibles, des chaînes invisibles. C'est la culpabilité, c'est des traumatismes, c'est des liens spirituels, c'est des forteresses de raisonnement, etc., qui courbent l'âme humaine, qui courbent votre âme. La parole de Jésus agit comme un glaive qui tranche toutes ces chaînes, qui fait que toutes ces forteresses s'écroulent les unes derrière les autres. Elle rend à l'être humain sa verticalité, sa capacité de regarder vers le ciel. C'est l'autorité du libérateur sur les puissances qui cherchent à asservir l'image de Dieu en nous, puisque notre Créateur, c'est Dieu. Sa parole, elle redresse ce que le mal a brisé. C'est une parole, la parole de Jésus, qui peut vaincre le dernier ennemi, appelé la mort. Et le point culminant de cette autorité se trouve justement devant le sépulcre de Lazare de Béthanie. Dans Jean chapitre 11, il nous est dit qu'après 4 jours de décomposition, une seule parole suffit. Jésus va dire « Lazare, sors !» Et Lazare va sortir. Il va ressusciter, revenir à la vie. Théologiquement, c'est la démonstration que Jésus détient les clés du séjour des morts. Sa parole appelle à l'existence ce qui n'est plus. Jésus a mis ainsi en évidence ce qu'il a affirmé sur sa personne de Fils de Dieu. « Je suis la résurrection et la vie. Voilà une parole qui va se coller à la fête de la Pâque, là que nous allons vivre dans quelques jours. Lève-toi. Lazare sort. Et ça renverse le cours des funérailles en célébration pour apporter notre célébration, celle de la vie, celle de la vie en Dieu. Et puis, finalement, il y a cette parole de grâce qui a toute autorité spirituelle. Et plus extraordinaire encore que la guérison physique, Jésus, je l'ai dit à plusieurs reprises, il a le pouvoir de pardonner de tout péché, de vous pardonner de tout péché. On le voit avec le brigand qui se repent là alors qu'il est crucifié à côté de Jésus sur la croix. Luc chapitre 23. Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Parce que cet homme qui se repent dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui dit, « Mais c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Mais mes amis, donc c'est une parole qui rassure parce que ça nous montre qu'au moment de la mort, c'est un passage et nous passons, si nous sommes à Christ et nous croyons en Christ, si nous avons reçu Jésus-Christ comme sauveur, de ce monde à celui de Dieu. Et c'est ici que sa parole devient finalement évangile, bonne nouvelle. Elle a le pouvoir de réécrire le destin éternel. Et ma conclusion est celle-ci. Pourquoi cette parole est-elle encore efficace? Parce que, comme nous le rappelle Hébreux, chapitre 1, verset 3, le Christ soutient toute chose par sa parole puissante. Il n'est pas seulement un personnage du passé, il est le sauveur, il est le médiateur vivant aujourd'hui. Alors l'application pour vous, auditeurs, auditrices, et celle-ci, peu importe la nature de votre tempête ou la profondeur de votre, entre guillemets, tombeau spirituel, la voix qui a guéri le lépreux, qui a relevé Lazare, est la même aujourd'hui. Sa parole n'a pas perdu une once de sa force. Elle est l'espoir pour tous et un rempart pour vous en particulier. Que cette parole de vie trouve aujourd'hui un écho dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.
Il y avait un vieux mendiant traînant dans la poussière, vivant dans la misère, dans les nuits sombres de Jéricho. Mais quand il a appris que Jésus passait par là, un homme qui pouvait tout changer, puis dans son cœur l'espoir s'est réveillé. À ce moment-là, Bartimée s'écria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, réponds à mon cri. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Que je fasse pour toi, dit le Seigneur, maître, que je vois la lumière. Et il lui répondit, va, ta foi et t'a sauvé. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Réponds à mon cri. Jésus, fils de David, réponds à mon cri. À mon cri, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié. Jésus, fils de David, réponds à mon cri. Réponds-moi. Jésus, fils de David, Jésus, fils de David, aie pitié. Réponds à mon cri. Jésus lui répondu, va, mon fils, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé, t'a sauvé, t'a sauvé, t'a sauvé. Jésus, fils de David, aie pitié de moi.
Aie pitié.
Jésus, fils de David, réponds à mon cri.
À mon cri.
Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi.
Aie pitié.
ville, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, réponds.